marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Qui était ce peuple? Où vivait-il? On n'en savait rien.
Les Hittites et leur royaume.
Ce sont des gens qui sont arrivés à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, nous avons la Turquie ici, bien au centre, un peu au nord-est, là où nous avons ce grand fleuve, qui est le fleuve rouge, le Kızılırmak. Les Hittites se sont installés dans cette boucle du fleuve rouge. C'était une région particulièrement difficile, région de montagne, et il fallait vraiment de solides gaillards pour s'implanter là. Ils se sont implantés là parce qu'ils se sont dit, dans le fond, le pays est difficile, nous avons toutes les chances d'y être tranquilles. Et effectivement, ils ont pu bâtir cette civilisation formidable, cette civilisation hittite, qui après a rayonné à l'extérieur et jusqu'aux limites de la Syrie, jusqu'à la frontière de l'empire des pharaons d'Égypte.
Soit des populations venues de l'Europe des Balkans et du Danube, participant à un long mouvement de migration de l'ouest vers l'est, et de l'autre côté, les populations du plateau anatolien. Au début du second millénaire avant notre ère, la fusion en est sans doute assurée. Les échanges commerçants sont alors assurés par des marchands assyriens qui, à leur façon, préparent déjà un espace commun. Et au XVIIe siècle, avant notre ère, le royaume hittite s'établit. C'est à sa manière un empire qui aspire à la totalité, qui cherche à rejoindre la mer, et s'est même avéré capable de mener un raid jusqu'à Babylone. Il durera jusqu'aux alentours de 1200, avant notre ère. Les Hittites ne furent longtemps connus que par quelques mentions elliptiques de la Bible et des documents égyptiens ou assyriens. En 1834, un jeune Français, Texier, est mené jusqu'à des ruines énigmatiques au village du Défilé, à 300 km d'Ankara. Il apparaîtra plus tard que c'est la capitale, Hattusche. À la fin du 19e, Français, Anglais et même Américains commencent à s'intéresser beaucoup aux Hittites. Mais ce sont les Allemands qui obtiennent de leurs alliés ottomans des firmans décisifs pour conduire des fouilles. Et surgissent des milliers de tablettes. C'est un Tchèque qui découvre la clé de l'écriture cunéiforme. Le premier texte traduit dit « Vous mangerez du pain et ensuite vous boirez de l'eau ». Le vocabulaire hittite est souvent pragmatique. Les Hittites, c'étaient des soldats, mais aussi des paysans. Et la civilisation que pan après pan on découvre est non seulement comparable à celle des Égyptiens et des Assyriens, avec qui elle rivalisa, mais aux traits guerriers qu'elle partage avec eux, elle ajoute souvent une idéologie de la paix, on va dire les choses ainsi. C'est une de ses singularités. Qui plus est, sa participation à la vie de cette région clé du monde fut plus durable qu'on l'a cru dans un premier temps. Dans l'Est et le Sud-Est anatolien, des royaumes néo-hittites, plus petits, mêlés d'Araméens, durèrent des siècles après l'effondrement d'Hattusche. Une grande exposition au Louvre, programmée jusqu'au 12 août, le montre. Après l'empire hittite redécouvert, les royaumes oubliés, mis en lumière.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Isabelle Cloque-Fontanille, bonjour.
Bonjour.
Alors, hittitologue numéro 1, quasiment en France, on vous doit le Que sais-je sur les Hittites, hein, deux livres aux éditions de l'Harmattan. Ce qui vous préoccupe beaucoup, Isabelle Cloque-Fontanille, c'est la question de la signification de la langue.
Alors, la langue hittite a un intérêt particulier pour nous, modernes, puisque c'est la plus ancienne langue indo-européenne, c'est-à-dire de la même famille que le français, le latin, le grec, l'espagnol, que nous connaissions, puisque les plus anciens textes sont des textes hittites. Donc effectivement, c'est pour nous particulièrement important. Vous avez cité tout à l'heure la phrase de Rosny, « Vous mangerez du pain et vous boirez de l'eau ». Eh bien, le mot pour « eau », c'est « watar », donc « water »,« wasser » de l'allemand. Et il y a non seulement la langue, mais il y a le peuple qui est derrière, la culture qui est derrière, l'idéologie au sens un peu dumézilien du terme. La place très importante de la femme, l'absence de peine de mort. Le premier traité international avec les Égyptiens.
L'exposition du Louvre que vous avez visitée est décrite ainsi par une chroniqueuse du journal des Arts. Oh là là, c'est grand, c'est grave, c'est austère, il y a des griffons, il y a des lions, des dieux menaçants. Et vous, vous avez une représentation plus humanisée des Hittites.
Ah oui, pour moi, les Hittites sont proches de nous. Alors certes, il y a des monuments qui sont grandioses. Et l'exposition, elle est là aussi pour nous montrer des choses un petit peu exceptionnelles. Mais il ne faut jamais oublier, et l'exposition le montre, hein, que derrière, il y a des gens qui pensent, des gens qui souffrent, des gens qui vont à la guerre, des gens qui vivent.
Dites-moi, les Français ont été d'une certaine manière pionniers, parce que c'est dès 1834 qu'un jeune architecte découvre le village du défilé. Mais les fouilles, elles sont venues plus tard et les Français n'ont pas joué un rôle déterminant dans les fouilles.
Non, au XIXe siècle, toutes sortes de nations non pas se disputent, puisqu'il n'y a pas encore, on ne cherche pas à avoir l'hégémonie sur cette partie du Proche ou Moyen-Orient. De toute façon, c'est un Suisse, hein, finalement, qui, peut-on dire, a redécouvert, finalement, cette civilisation, puisqu'un jour qu'il se promenait dans le bazar de la ville syrienne de Hama, il a vu des pierres avec des signes dont il se demandait bien ce que c'était. Il disait, mais ça ne ressemble pas aux signes égyptiens, mais à l'époque, on n'avait pas encore déchiffré l'écriture égyptienne. Donc après, oui, un Français, puis des Anglais, hein, qui ont Hamilton, qui a découvert Al-Hajjah Uyuk, un autre Français, Chantre. Voilà. Et en fait, l'attitude de la diplomatie française a été pour le moins un peu juste, hein, puisqu'il n'y a pas eu de fouilles systématiques. Mais on peut aussi rappeler que l'archéologie n'existe pas encore comme discipline au XIXe siècle. Donc il n'y a pas eu d'argent. Hein, donc c'était des fouilles ponctuelles. Et puis fin du XIXe siècle, l'Allemagne effectivement lance l'offensive. Donc voilà, nous, égyptologues, on n'a pas à s'en plaindre.
La capitale, Hattouche, à 300 kilomètres d'Ankara.
Première capitale, la capitale véritable des Hittites, c'est Hattoucha, où nous sommes actuellement, et nous pénétrons par la porte d'entrée nord dans cette ville qui était immense, puisque nous allons un peu la surplomber. D'ici, nous voyons les ruines du palais. C'était une ville qui s'étendait sur une superficie absolument immense, et à l'heure actuelle, on n'a pas fini de fouiller cette ville.
Et là, ce grand temple?
Voilà, c'est le plus grand temple qu'on a découvert. Ici, c'était la première fois qu'on a travaillé pour fouiller la ville de Hattoucha.
C'était seulement un temple ou c'était autre chose?
Non, c'est seulement un temple, mais entouré par des magasins qui appartiennent au temple.
C'est là qu'on a retrouvé un certain nombre
de tablettes aussi. Et aussi le palais était tout à fait au fond de cette colline, entouré par d'autres maisons. C'était un système de murailles défensives et tout autour était, il y avait des ravins, il y avait des vallées.
Mais toute la ville était entourée comme
oui,
ça?
Oui, entourée d'une muraille construite en pierre et de 6 mètres de hauteur. Et au-dessus, il y avait un mur construit en briques crues.
Et il y avait combien de portes dans cette ville?
Il y en avait plusieurs, mais 4 portes principales.
Au micro de Paul Seban, un Turc, le professeur Akurgal, les Turcs ont repris en main quand même les fouilles depuis un moment.
Oui, tout à fait. Et depuis un certain temps, en particulier, ils fouillent des villes autres que la capitale. Donc depuis quelques années, nous découvrons d'autres sites et c'est très intéressant pour nous parce qu'il y a d'autres archives. Il parlait des archives et des tablettes et ça nous permet de mieux comprendre les relations entre le grand roi qui se trouve à la capitale et les gouverneurs des villes de province. Parce que dans la capitale, on a quand même surtout des tablettes qui concernent l'histoire générale hittite, la correspondance avec les grandes puissances étrangères, mais et dans ces villes de province, disons, on découvre les relations avec donc les gouverneurs locaux.
Les tablettes, par milliers, dizaines de milliers, peut-on dire. Et c'est un Tchèque qui découvre la clé du déchiffrement. Les premiers mots traduits, et vous mangerez du pain, et ensuite vous boirez de l'eau. Alors, il y a deux types d'écriture. Définissez peut-être le mot écriture cunéiforme, Isabelle Cloque.
Alors, cunéiforme, ça veut dire en forme de quoi ? Cuneus, hein, c'est un mot, nom qui a été donné au XVIIIe siècle. Donc, c'est une écriture dont les signes ont une forme de clou. Mais à l'origine, ces signes cunéiformes, d'abord, n'ont pas été inventés par les Hittites, hein, ils viennent de la Mésopotamie, étaient pictographiques, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une représentation de blé, de, enfin, toutes sortes de choses. Et c'est l'utilisation de l'argile molle qui a fait que les signes se sont petit à petit stylisés et ont pris cet aspect de clou ou de coin, d'où l'appellation cunéiforme.
Et alors l'autre écriture, c'est l'écriture hiéroglyphe. Et oui, il y a des hiéroglyphes aussi chez les Hittites, ainsi que l'explique une grande aïeule de l'hittitologie, Emilia Masson.
L'Asie mineure a connu vers 1500 aussi un type d'écriture à dessin et qu'on a appelé de nouveau par analogie aux hiéroglyphes égyptiens les hiéroglyphes hittites. C'est une écriture très belle qui a beaucoup d'allure et que les hittites utilisaient, c'était leur seconde écriture si j'ose dire. Ils ont adopté les cunéiformes pour les documents longs, littéraires ou administratifs, pour graver les tablettes. Mais ils ont éprouvé le besoin d'avoir une écriture d'apparat, une écriture qui était gravée dans les rochers, sur les rochers, et qui animait les effigies, soit royales, soit humaines. Elles devaient donc glorifier un roi, ou bien glorifier une divinité. Comme vous voyez sur cette stèle, l'inscription accompagne la figure de dieu de l'orage, Teshub, le principal dieu hittite, et qui justement est une inscription votive.
Quand on veut signifier quelque chose à quelqu'un qui se tient à la frontière, par exemple, on va écrire en hiéroglyphe face à lui.
Oui, en effet, on a le long des frontières toute une série de stèles inscrites qui représentent, par exemple, le mariage du grand roi Hattusili avec la reine Pudurepa. Et cette stèle est tournée vers le pays étranger et permet de signifier la grandeur du pays hittite. Alors, juste pour corriger...
Corriger, Madame Masson
Pas corriger, mais nuancer. Mais ce sont des habitudes en fait, de parole. L'écriture hiéroglyphique n'est pas hittite. Alors, on a l'habitude, c'est vrai de dire hittite, mais ce n'est pas la même langue qui se trouve derrière les cunéiformes et derrière l'écriture hiéroglyphique. C'est une langue cousine qu'on appelle le louvite, un peu comme l'italien et l'espagnol, hein, c'est-à-dire très proche, mais cousine. Et pour compléter,
ils parlaient plusieurs langues, les hittites ?
Alors ça, c'est très compliqué. La langue que parlait le peuple nous est inconnue, puisque nous n'avons que de la littérature officielle. Donc nous n'avons pas de graffiti, donc nous ne savons pas quelle langue. Alors il y a beaucoup, beaucoup de débats sur cette question-là. Le hittite, qu'on devrait appeler nésite, c'est la langue de la chancellerie. Un peu, je vais faire une comparaison peut-être un petit peu schématique, mais je crois quand même assez claire. Au XVIIe siècle, Richelieu avait bien compris que pour unifier politiquement la France, il fallait l'unifier linguistiquement, d'où l'Académie française et l'orthographe. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Quand le royaume s'est unifié, hein, qui était constitué de petites cités-états, s'est unifié, on a choisi une langue officielle. Mais est-ce que c'est la langue que parlait le peuple ? On n'en sait rien.
Alors, dites-moi, puisque vous faites des comparaisons hasardeuses avec la France, je vais en osez une aussi. Vous intéressez beaucoup, vous avez tout un livre à l'Harmattan, à la figure du roi. Hattusili, il y en a eu un, deux, trois, vous avez cité le trois, mais le premier. Est-ce que le premier, comparaison avec la France, il ne produit pas un testament qui n'est pas sans ressembler avec celui de Louis XIV ? Il est vieux, il a des soucis de succession, et il fait des recommandations à ceux qui vont lui succéder. Des recommandations de prudence. N'aime pas trop la guerre comme je l'ai aimé. Pense à la paix et à la clémence.
Sois modéré. C'est les conseils qu'il donne, sois modéré. Et il y a une expression très belle qui dit « Bois modérément, mange modérément. Et quand tu ne seras plus roi, quand tu seras vieux, tu pourras boire et manger tout ton sou. » La modération, c'est vraiment une qualité première des rois hittites. Alors il a beaucoup de soucis parce que le premier successeur qu'il avait choisi s'est rebellé contre lui. Donc, et toute la première partie de l'histoire hittite, comme il n'y a pas de règles établies, il va y avoir des problèmes de succession, des complots, des rébellions, jusqu'à ce qu'un roi décide de mettre en place une règle qui sera respectée jusqu'à la fin de l'Empire.
Vous insistez beaucoup sur le souci de la discorde, et donc, en contrepartie de l'harmonie, de l'échange. Un roi, il mène la guerre à l'extérieur. Bon, c'est un guerrier, c'est un conquérant, c'est inévitable. Le bon roi, c'est celui qui pratique l'échange et la clémence.
Alors, un roi qui est juste conquérant n'est pas un bon roi. Vous avez cité tout à l'heure dans votre introduction le roi qui est mourcilien, qui a fait un raid sur Babylone. Ça, ce n'est pas un bon roi, parce qu'il a conquis, il a détruit Babylone, il a rapporté du butin, et ça s'est arrêté là. Un bon roi, c'est celui qui gère ses conquêtes et qui administre ses conquêtes. Voilà. Et dans les textes, on voit ses fils et ses frères maintenaient la paix dans les pays qui étaient conquis. Voilà. Ça, c'est un bon roi.
Si on fait une comparaison avec la France, enfin, je veux dire avec la Corse, il y a des tours de guet aux frontières. Chaque fois que les ennemis s'insinuent, hop, on se réfugie là où on est protégé, les bergers, les troupeaux, les hommes, les femmes. Comment c'est les frontières ?
On n'a pas énormément d'indications. On en a pour le nord, puisque au nord, donc au bord de la mer Noire, il y a un peuple qu'on appelle les Gasgas, qui sont des pillards et qui ne sont pas organisés en nations, qui n'ont pas d'écriture d'ailleurs, et qui, chaque fois qu'il y a de la famine, vont venir faire des razzias, effectivement, dans le pays hittite. Et les rois hittites, on parlait tout à l'heure du roi, toute la culture, toute la société hittite est juridique. Donc tout passe par du juridique. Donc les rois hittites ont passé leur temps à signer des traités avec les Gasgas, que les Gasgas ont passé leur temps à violer, bien sûr.
Il y a des ennemis partout. Au nord, au sud, à l'est. L'accès à la mer est difficile, mais recherché tout le temps.
Oui, les Hittites ont passé leur temps à chercher un accès à la mer. Au nord, la mer Noire s'était fermée par les Gasgas dont je viens de parler. Et vers le sud-ouest, ils ont toujours essayé d'avoir un accès, d'où ces tentatives répétées pour préserver le port d'Oura, hein, qui se trouvait sur la côte. Oui.
Et puis alors, dans la direction que vous indiquez, il y a les Égyptiens. Voilà un groupe dont l'un des fondateurs s'appelle Jean-Philippe Freux. Freux, c'est un grand nom d'hittitologue d'ailleurs. Et il s'agit, mais version très moderne, rhinocéros, des funérailles de Toutankhamon.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et les Hittites, donc aujourd'hui, les Hittites, quel rapport avec, par exemple, le père ou la veuve de Toutankhamon, l'infatigable Christine Desroches-Noblecourt nous le dit.
En 1888, on découvre une lettre d'un roi hittite présentant ses vœux à l'occasion de l'accession au trône du pharaon.
Les Hittites furent par moments en bon rapport avec les Égyptiens. Quand Toutankhamon mourut, la veuve de Toutankhamon envoya une lettre pour demander au roi des Hittites, qui s'appelait Supiluliuma, un nom un peu accouché dehors, son fils, car elle ne voulait pas épouser un de ses serviteurs. Le roi des Hittites a pris ses renseignements, il a envoyé des délégués qui sont venus en disant que c'était très sérieux la demande. Il a envoyé son fils, qui s'appelait le prince Zanonza. Il n'est jamais arrivé.
Alors, il y a des périodes de paix, il y a des périodes de guerre, assez souvent, avec les Égyptiens. Nous sommes un peu plus tard, on est passé de la 18e dynastie en Égypte à la 19e dynastie, avec Ramsès II, qui mène un combat à Kadesh, une cité stratégique aux portes de la Syrie, qui a failli tourner pour lui à la déroute, mais qu'il tente de transformé en triomphe. Allez, encore un coup de Christine Desroches-Noblecourt.
Dans les récits de la bataille de Kadesh, que nous avons presque minute par minute, par Ramsès, qui avait emmené ses dessinateurs, faute de photographes, et ses journalistes.
C'est la première grande bataille de l'histoire ou de l'Antiquité.
Avant Marathon, Marathon c'est le 5e siècle et Kadesh c'est le 13e siècle avant notre ère. Et il y a eu un reportage extraordinaire que Ramsès a fait reproduire sur tous les murs de ses temples. C'est extraordinaire. C'est un match nul si vous voulez, mais c'était pas encore la paix et c'était pas encore le partage. Le roi Hittite a proposé, paraît-il, la paix à Ramsès le lendemain. Et il n'y a pas eu vraiment partage, mais Ramsès est arrivé à mettre sur pied avec le roi des Hittites une paix extraordinaire qui a régné pendant plus de 40 ans en Égypte.
Double extrait d'une émission de Vincent Charpentier. Paix, guerre, Kadesh, Ramsès.
Alors oui, c'était effectivement un match nul, puisque les Hittites ont bien gardé Kadesh, que Ramsès était venu récupérer, mais les Hittites n'ont pas profité de leur avantage. Et en effet, le roi Hittite a proposé, a envoyé un message à Ramsès, lui disant « la paix vaut mieux que la guerre ». Pourquoi ? Parce que on a quand même des grands stratèges. On a les Hittites d'un côté, grande puissance, les Égyptiens de l'autre, grande puissance. Et puis il y a un troisième larron, Tapi, qui est le roi assyrien, qui attend que les deux grands s'entre-déchirent finalement pour venir ramasser les miettes. Et nos deux grands rois l'ont bien compris. Et donc en effet, quelques années après la bataille de Kadesh, c'est le fameux premier grand traité international.
Alors ce premier traité international, oui. Quelle trace dans l'écriture laisse-t-il ?
Alors nous avons l'interview que nous avons entendue, on a bien le point de vue égyptien, mais il faut savoir qu'on n'a pas le point de vue hittite de cette grande bataille, parce que le roi hittite avait déplacé sa capitale, donc les archives se trouvent dans cette capitale, et nous n'avons toujours pas retrouvé cette nouvelle capitale. Donc nous n'avons que le point de vue égyptien. Donc point de vue égyptien, les Égyptiens ont gagné. Les quelques phrases que nous avons dans des textes plus tardifs hittites disent bien que le roi hittite a vaincu le roi d'Égypte, évidemment. Voilà. Alors les traces que nous avons, comme cela vient d'être dit, des récits sur des temples, en particulier le temple de Karnak. Mais nous avons du côté hittite un brouillon en argile, qui est un brouillon que s'est changé en fait les deux chancelleries sur les modalités, les formulations du traité. Nous n'avons pas le traité original, dont on sait qu'il était sur une tablette d'argent, c'est marqué sur le brouillon, mais nous avons ce brouillon.
Parlez-nous de la reine chez les Hittites. Dans votre grande tentative d'humaniser les Hittites, vous insistez beaucoup là-dessus, Isabelle Klopp.
Oui, la reine Hittite avait une grande place et avait des fonctions très très importantes. Et là, l'épouse de Hattusili III, c'est-à-dire celui qui va signer le traité avec Ramsès II, avait non seulement les mêmes fonctions que toutes les reines Hittites, mais manifestement une personnalité hors du commun, qu'elle a vraiment mis à profit dans l'intérêt du pays hittite, surtout que Hattusili III était quand même souvent malade. Et donc c'est elle qui va gérer en fait toute l'affaire. Alors vous me posez la question de la place de la reine. Il faut savoir par exemple que le titre du roi en exercice, c'est la Barna. C'est le titre qu'il a tant qu'il est vivant. La reine, elle est à Wanana. Quand le roi meurt, la reine garde son titre, jusqu'à ce qu'elle meure. Donc la nouvelle femme du nouveau roi ne devient reine que quand sa belle-mère, évidemment, meurt. Et Pudurepa est morte tellement vieille que la femme du successeur n'est jamais devenue reine.
Elle a quand même bien fait de mourir assez tôt pour ne pas voir le lent déclin, l'effondrement même de l'empire hittite. Une ou deux générations après cette bataille, ça commence. Est-ce que vous voulez bien entendre un point de vue turc, le professeur Akurgal, déjà cité, qu'on interroge sur l'énigme que représente cette fin rapide d'une puissance si grande?
Comment peut-on penser exactement qu'une telle civilisation ait pu disparaître?
Alors, il y a sans doute, chaque nation a une histoire, un âge. Mais les Hittites n'étaient pas nombreux quand ils sont venus, et c'était une civilisation d'une couche très mince. Ils savaient écrire, mais après que les Hittites ont disparu, il n'y avait plus d'écriture en Anatolie. On est entré dans une période analphabétique, encore une fois. Et c'est,
ça va de quelle époque à quelle époque?
C'est de 12e siècle à 7e siècle à peu près, avec les Phrygiens, entre 1200 et 700 avant Jésus-Christ.
Et il n'y avait plus d'écriture.
Il n'y avait plus d'écriture dans cette période d'obscurité. Et après la destruction de l'Empire, tout a disparu. Parce que c'était une civilisation d'une couche intellectuelle, d'une couche qui dominait le peuple.
Et qui donc ne préoccupait pas de...
Est-ce qui ne faisait pas le peuple. Mmh. C'est pour cette raison que la civilisation a disparu d'un seul coup. Et avec les Phéniciens, les Grecs, l'écriture a recommencé en Anatolie.
Alors comme vous aimez bien corriger fraternellement les intervenants précédents, là, je ne sais pas, il y a un point de vue lutte des classes, mais est-il exact de dire que cet effondrement a été aussi rapide, qu'aucun type d'écriture n'a survécu? Et puis il y a eu d'autres petits royaumes après la fin du grand royaume.
Alors, l'écriture a disparu, mais l'écriture cunéiforme a disparu, hein, pas l'écriture hiéroglyphique, l'écriture cunéiforme, pour une raison qu'on comprend assez bien, elle était intimement liée au pouvoir central. À partir du moment où le pouvoir central disparaît, l'écriture a disparu également. Alors, concernant les raisons de cet effondrement de l'Empire hittite, elles sont complexes. C'est de toute façon, on est à la fin de l'âge de bronze, les grands empires s'effondrent dans tout le Proche-Orient. Alors, toutes sortes de raisons. On sait qu'il y a eu une grande famine. Hein, nos collègues biologistes de Toulouse 3 ont fait toutes sortes de carottages qui prouvent effectivement qu'il y a eu un réchauffement très important avec une chute des récoltes. Cela a provoqué des migrations, donc il y a eu les peuples de la mer. On sait qu'ils sont venus avec femmes et enfants, donc ce ne sont pas que des envahisseurs. Voilà, il y a
et
eu...
les peuples de la mer, ils sont partout dans la région.
Oui, mais tous les empires s'effondrent à ce moment-là. L'Égypte résiste, elle résiste, mais les autres Ougarites disparaissent à ce moment-là, l'empire mycénien disparaît à ce moment-là, c'est assez général. Et ce qui s'est sans doute passé pour l'empire hittite, c'est sans doute... On pense actuellement que ces Gazga dont j'ai parlé tout à l'heure, ces pillards, sont venus donner le coup de grâce en incendiant la ville.
Et en même temps, contrairement à ce que dit le distingué professeur Akurgal, de petits royaumes ont survécu très longtemps. On a parlé des Hittites longuement. C'est une sorte de prélude à l'exposition du Louvre qui est consacrée surtout aux royaumes oubliés que sont les royaumes néo-hittites, mais qui ont duré des siècles et qui... ont de quoi produire les collections extraordinaires qui sont présentées dans cette exposition.
Oui, tout à fait, parce que ces royaumes, à la fois, sont les successeurs de cet empire hittite, puisque pour une partie d'entre eux, ce qu'on appelle les néo-hittites, ce sont souvent les descendants de ceux que le grand roi hittite avait mis en place lorsqu'il annexait des régions. C'est-à-dire que quand il avait annexé un petit royaume, soit il laissait le roi en place et il lui faisait épouser une princesse royale, soit il mettait en place un de ses fils, de ses neveux. Et ses descendants sont devenus les rois de ces royaumes néo-hittites. À côté, il y a eu des royaumes araméens. Donc ce sont des peuples qui étaient déjà sur place et qui se sont, on va dire, sédentarisés un petit peu rapidement. Donc c'est à la fois une continuité, et on voit bien la langue, c'est la langue louvite, l'écriture hiéroglyphique, bien sûr l'araméen, enfin tout ça, ça va prendre de plus en plus de place. Donc il y a bien à la fois... continuité, rupture, et c'est l'Empire assyrien, évidemment, qui va tout balayer quelques siècles plus tard.
Merci à vous, Isabelle Klock. Donc, l'exposition sur les Hittites et les néo-Hittites, c'est au Louvre. Les Journées nationales de l'archéologie, c'est un peu partout en France pendant ce week-end. Vos livres, c'est au Puffet et à l'Harmattan. L'équipe de La Marge de l'Histoire, Frédéric Martin, Juliette Delperroux, Audrey Ripouille. Mathieu Vidard, l'attachement.
Oui, Jean, on va en parler.
Alors, l'attachement, la théorie, c'est la marge de l'histoire est attachée à la tête au carré, mais en quoi ça devient de la clinique?
Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir avec nos invités qui proposent au sein du centre hospitalier de plaisir dans les Yvelines, eh bien tout ce qu'il faut pour mettre en pratique cette théorie de l'attachement. On va en parler dans un instant.
Merci à vous.